R22 Tout le monde, antenne École du Magasin, Take You There Radio.
Comment je pourrais te dire? Je peux partir de choses assez simples, c'est que ça t'oblige à, si t'avais pas compris, ça t'oblige assez vite à découvrir que t'as une voix. Et que tu peux apprendre à la moduler.
Mmh.
Tu peux apprendre à protéger tes cordes vocales ou pas. Tu vois, il y a tout un aspect physique que j'ai appris trop tard. Parce que comme on n'a aucune formation, on avait, je crois que c'est toujours le cas, aucune formation pour la voix portée, quoi. Donc la voix qui est censée parler à une assemblée, donc de loin, quoi, si tu veux, tu vois. J'ai trop forcé pendant des années, alors que j'avais une voix qui portait très très loin au début, qui était très forte, qui portait très loin.
Mmh.
Et là maintenant j'ai plus, parce que je me suis esquinté les cordes vocales en fait. Et donc j'ai eu une série de séances de chez l'orthophoniste à un moment, parce que j'avais mal à chaque fois, tu vois, qui m'a appris à placer ma voix très rapidement, d'ailleurs en une demi-douzaine de séances. Ce qui fait que maintenant j'ai plus mal, mais je sais que j'ai perdu un peu de ma voix. Voilà pour le côté physique et technique, quoi, si tu veux, tu vois.
C'est des séances de combien de temps? Tu disais une demi-douzaine?
Pardon, là, je t'entends pas.
C'est une séance, c'est des séances de combien de temps?
C'était des séances de, je pourrais te dire, une demi-heure peut-être. Même pas, tu vois.
Ah ouais, donc c'est
en fait, c'est assez simple, hein, d'apprendre à respirer avec le ventre au lieu de tout placer sur la poitrine et la gorge, de faire des exercices le matin avant de parler,
mmh.
Ce que je fais pratiquement tous les matins, surtout quand je commence tôt. D'apprendre deux, trois choses très... par exemple, bâiller, ça détend les cordes vocales, donc après c'est mieux. Enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi.
Ouais.
Après, t'apprends un peu à t'écouter, quoi, si tu veux. Je sais qu'il y a des moments où ma voix peut être très désagréable, hein, parce que trop aiguë, trop forte dans les aigus, ou, ouais, tu vois, attaquante, donc ça, les premiers rangs, ils en bavent. Et puis voilà, quoi, tu vois, c'est des choses, mais vraiment, tu l'apprends sur le tas. Hein.
Mm.
Et après... Je crois qu'après, dans l'apprentissage, faut pas, pour les ados que j'ai, qui sont jeunes, qui ont entre 11 ans et 15 ans, pas trop vite et pas trop fort, je dirais. Mais pas trop lentement non plus. Ce qui est sans doute pas vraiment satisfaisant comme réponse, mais...
Non, c'est bien.
Après, moi, je crois qu'au collège, il n'y a pas ou peu de séparation entre la voix, ce qu'elle raconte, et le corps dans lequel elle est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'ils regardent beaucoup.
Ouais.
C'est clair. Ils entendent. Ils écoutent, ça c'est accessoire, mais ils entendent. Et puis, après la voix, elle peut être très agressive, même si, tu vois, même si on ne sent pas comme ça. Et très variable selon le moment de l'heure, le début, le milieu, la fin, le moment de la journée, le début ou le milieu de la semaine.
Mmh.
Voilà, comme eux, ils peuvent être très différents suivant l'heure, suivant la journée, suivant le moment de l'année. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je, 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 je m'écoute de plus en plus en parlant, sans évidemment que c'est pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est obligé que ce soit pas narcissique, parce que c'est, ou en tout cas, c'est un truc de contrôle, quoi, si tu veux, pour faire en sorte que ça puisse, avoir, tu vois, qu'il y a une circulation, une communication entre réciproque, quoi. Il faut un peu avoir conscience de la voix tout le temps, quoi. La voix qu'on est en train d'avoir, quoi, qui n'est pas toujours la même. Et après, l'autre sens, et ça c'est beaucoup plus difficile pour les profs, c'est leur voix à eux, quoi. Ça met encore plus de temps à arriver, parce que tu es tellement concentré sur ce que tu as à dire. Et en particulier, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, tu sais qu'il y a des programmes à faire passer, etc. Tu vois. Donc, tu es très concentré sur ce que tu as à dire, en tout cas au début, quand tu commences. Et au cours des années, il va falloir apprendre à lâcher ça. C'est-à-dire faire passer un petit bout de ce que tu as à faire passer éventuellement, mais ce qui est très difficile... les entendre et les écouter et essayer de piger où ils en sont, et voilà, dans un groupe où ils sont en gros 25. Enfin bon, tu vois, il y a des tas de paramètres. Alors parler de la voix comme ça dans l'enseignement au collège, c'est pas isolable.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout un rôle du, enfin quand tu disais le rôle du corps, et oui, ben après moi, je me demandais, parce que j'ai l'impression que dans les choses que tu décrivais, il y a aussi des choses qui peuvent être pas applicables, mais qui peuvent se retrouver en fait dans quand tu fais une performance de lecture, par exemple. Est-ce que t'as relié les deux, ou c'est des choses très différentes, c'est-à-dire que tu fais pas du tout tu relies pas du tout. Mais je pense, par exemple, si c'est des techniques pour placer sa voix, je pense que forcément, ça doit avoir des conséquences sur les deux.
Ouais. Oui, c'est pas très très différent, hein. Enfin, je trouve que c'est pas très différent. C'est juste pas le même public.
Ok.
C'est juste pas le même public. Et alors, quand je, enfin, c'est exactement la même chose, sauf que pareil, j'ai découvert ça tardivement. Mais alors là, pour le coup, parce que j'ai commencé à faire des lectures à 30 ans, tu vois. Donc peut-être que j'ai commencé à avoir des problèmes de voix vers 30, 35, un truc comme ça, je sais plus. Ça s'est fait un peu en même temps, tu vois.
Ouais.
Et en lecture, alors c'est pas compliqué, les gens te regardent, ça me semble évident. Mais ça, le fait, par exemple, quand tu lis en public, le côté le poète assis à sa table avec un verre d'eau qui serait que une espèce d'extension du livre, tu vois. Que c'est pas ça, c'est évident, ça m'a paru évident dès le début. Et je pense pas que ce soit seulement parce que j'étais prof, mais enfin, bon, il suffit de voir comment on est soi quand on regarde quelqu'un en train de lire à voix haute, quoi. Tu regardes d'abord la couleur de la cravate, la tête du type ou la tête de la nana, la position de son corps, l'endroit où t'es, tu vois, c'est des choses très qui me semblent évidentes, quoi. Donc dès que j'ai commencé, enfin qu'on m'a sollicité là tout au début pour faire des lectures, je savais que les gens te regardent d'abord, après sont très sensibles à la voix que t'as, et si t'as une voix un peu désagréable, ils entendent, enfin bon, tu vois, les paramètres sont un peu les mêmes, à part que le public est un public qui est un peu moins captif, évidemment, c'est un public captif, quoi. Mais en même temps, j'ai assez vite compris aussi que quand tu lis, c'est-à-dire quand c'est pas une performance, tu vois, ou quand il n'y a pas d'autres paramètres qui entrent en jeu que la lecture d'un texte, normalement, il faudrait, même si t'es très bon, faudrait pas dépasser un quart d'heure. Parce que le seuil d'attention des adultes, enfin de tout le monde, un peu tout le monde, c'est à peu près un quart d'heure. Et encore, tu pars, tu vois, tu pars un peu, tu reviens, tu vois, ce qui est normal, quoi. Ça qui est assez drôle, c'est que les mômes, on leur demande, enfin en particulier au collège, de rester assis à écouter 6 ou 7 heures de suite. Hein. Et quand tu es adulte, tu sais très bien que toi-même, pour une lecture qui a priori t'intéresse, ou en tout cas t'indiffère pas, bon, au bout de 20 minutes, souvent t'en as marre, quoi.
Mm.
Et alors, ce qui m'a toujours. Donc, je le dis, j'en ai un peu parlé, je crois, dans les Poètes et le Pognon. J'ai oui. parlé de ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, quand même, chez les gens qui t'invitent, hein. Pas tous, mais bon, hein. Quand t'es invité, t'as une espèce de prime à la quantité qui fait que si on te paye 300 euros, mais mettons, hein, prenons un peu les tarifs d'aujourd'hui, si on te paye 300 euros, bon, hein, faudrait que tu te fasses ta petite demi-heure, quoi, si tu veux, tu vois. Mmh. Si on te paye 150 euros, tu peux te contenter du quart d'heure. Mais c'est souvent ça, quand même. C'est souvent ça. Et c'est dommage de réfléchir comme ça, parce que vraiment, je pense que lecture pure, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, faudrait arrêter. Faudrait, alors, sauf si, tu vois, c'est, je sais pas, Guyota qui sort de chez lui une fois tous les 10 ans et qui, tu vois, une espèce d'événement comme ça. Mais ou alors Artaud qui ressuscite, c'est bon, on peut l'écouter pendant 4 heures, ça sera pas un problème. Mais sinon, franchement, depuis 20 ans que je fais ça, tu vois, et ceux qui pour qui c'était très très bien, au-delà d'un quart d'heure, 20 minutes, il y en a quand même très peu, quoi.
Alors Antoine, il a tenu, attends, combien ? Une demi-heure à peu près ?
Ouais, mais Antoine, il fait partie des très bons.
Ok.
Je l'ai vu deux fois, hein, dont une fois ici, pas très loin de Digne, à Château-Arnoux. Mm-hmm. Il a tenu presque une demi-heure, je pense. Il aurait pu continuer.
Mm.
Mais c'est parce qu'il a, alors je sais pas ce qu'il a fait, là, à Grenoble, mais il a une espèce de truc où il cherche la transe, quoi, tu vois, un truc
ouais.
comme ça, non ?
À la fin, ouais, à la fin.
Ouais.
Mais il y a aussi tout un truc, enfin, je sais pas. Le contexte est assez particulier parce qu'il était dans, tu sais, le 102, donc t'es déjà venu.
Ouais.
Et il faisait des séries textes sur la révolution bio-hardcore, qui est un truc assez ambigu par rapport au bio. C'est-à-dire d'aller plus loin que le bio et de pas être juste bio-mou, quoi. C'est vraiment
ouais.
avec des immigrants qui se transforment en pierre dans la forêt, qui lâchent leur gun d'enfants soldats. Donc c'était un peu tendu, quoi. Et il y avait un truc, et puis il y avait beaucoup de gens qui rigolaient aussi, donc il y avait un truc très... Ouais, c'était assez assez intense, en fait. Puis lui, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je sais pas comment il fait. À la fin...
Ouais, mais lui, il est... Alors lui, il fait partie des quelques-uns qui peuvent tenir plus longtemps, parce que c'est d'abord parce que c'est une performance, vraiment.
Mm-hmm.
Et puis parce qu'il a... Il a presque un objectif qui est d'atteindre une forme de transe... c'est comme ça qu'il
en parle, ouais.
Qu'il dit les choses, quoi. Donc ça, c'est assez particulier, c'est assez post-TXTien, en fait, hein. Prigent, je crois, ne dit pas ça, ne dit pas le mot trans, mais enfin, quand même, quand il lit, et quand il lit ses litanies, là, tu sais, franchement, c'est assez, c'est voisin de ça, quoi, ça va vers ça, quoi.
Mm.
Donc là, c'est con, c'est évidemment, c'est bête de faire 10 minutes. Il faut pouvoir continuer beaucoup plus longtemps. C'est un cas particulier de lecture, quoi.
Après, en plus, ici, il voulait que travailler avec des musiciens. Il y avait vraiment, et je me suis rendu compte que, en plus, lui, en fait, à la base, ce que j'ai découvert, c'est qu'il venait de la musique expérimentale. Enfin, et du coup, je pense qu'il pense vraiment aussi sa voix comme un instrument, quoi.
Ouais.
Que parfois, entre des sessions d'enregistrement où il enregistrait ses textes, il faisait juste un truc genre complètement abstrait, mais où il faisait des featuring avec des gens, où il utilisait un vocodeur, où il y avait tout ce truc d'utiliser sa voix comme un instrument assez souvent dans la journée, quand même. Qui était...
Ouais, mais là c'est le poète sonore tendance Chopin, quoi.
Ouais.
Parce que là, il y a des passages qui sont pas sémantiques du tout.
Mm.
Moi, ce que j'ai vu, c'était quand même majoritairement sémantique, mais il y avait des passages qui ne l'étaient pas, quoi. Ouais, ouais, mais même ici, qui est censé être beaucoup plus du côté du texte, ce qu'il a amené là, c'était des musiciens, hein. Enfin, mmh. il est assez clair là-dessus, hein. C'est quand il allait au, comment il appelle ça, au domaine américain, là, tu sais, un truc à Paris, et qu'il a entendu, alors, je sais pas, Grina, qui c'est l'autre, je sais plus. Enfin, bref, il a entendu des musiciens, et c'est ça qui l'a intéressé. Point de départ, c'est quoi, la musique joue quand même un très grand rôle, quoi, la musique contemporaine des années 50, et vraiment, et c'était la voix telle qu'elle était utilisée par ces musiciens-là, hein. Par des musiciens, pas par des poètes.
Ouais. Mais il y a tout ce truc aussi, lui il dit texto, je crois, accepter les règles du showbiz, tu sais. C'est-à-dire.
Qui dit ça
Bernard Hetzig. Mais en fait, quand il dit ça, c'est pour parler des lumières sur scène, de tout l'aspect scénique en fait.
Oui, mais je pense quand même qu'il faut faire la différence entre le spectacle et puis le showbiz. Hein.
Ouais, mais lui, quand il en parle, c'est pour ça que j'étais assez surpris. Dans les notes convergentes, il cite le mot showbiz. Mais.
Je pense que c'est aussi un peu par provocation, parce que c'est terrible chez les poètes. Ça, ben, tu sais, je sais pas si t'es tombé sur le texte de Jacques Roubaud, qui était sorti dans Le Monde diplomatique il y a quelques années.
Non.
Qui s'appelait, je sais plus quoi, Vroom Vroom, un truc comme ça, qui était un texte extrêmement. Assez violent contre justement la mise en spectacle, la poésie sonore, la performance, etc. Un texte un peu réactionnaire, faut bien dire, quoi. Et y a toute une partie de la poésie, y compris chez les poètes qui n'ont pas l'air spécialement réactionnaires comme Roubaud, qui sont très très récalcitrants, pour pas dire plus, par rapport au poids qu'a pris la poésie sonore, la performance. Les poètes qui lisent sur scène et qui ont conscience que du coup il y a une part de spectacle et ça avait été un texte très violent, donc moi je pense que cette attaque là Haïti a dû la connaître toute sa vie, tu vois, de la part des poètes beaucoup plus légitimes que lui. Enfin, maintenant il est relativement légitime, mais presque jusqu'à la fin de sa vie il n'était pas tout à fait, tu vois. Et il a dû avoir ces attaques là en France, en tout cas un peu tout le temps, quoi. Donc le fait de parler de showbiz, c'est, je pense que c'est aussi une provocation ou une pique par rapport à ceux qui veulent surtout pas entendre parler de ça. Mais je crois que c'est quelqu'un, étant donné qu'il avait ce statut et cette comment aujourd'hui il doit appeler ça habitus, non, de grands bourgeois parisiens qui pouvaient se permettre de dire ça, tu vois.
Ouais.
Et d'ailleurs, même il le dit, on le remarque à peine parce que c'est lui qui le dit, tu vois. Il pouvait, du fait de cette position sociale, dire des choses qui chez quelqu'un d'autre aurait pu paraître être de la provocation un peu, et qui chez lui c'est simplement de l'humour, quoi. C'est pas qu'un humour anglais, tu vois.
Ouais.
Il y avait un côté comme ça, humour anglais en fait, je dirais. Ouais.
Jean-Marie Glaise.
Ouais, c'est sorti, non, que je t'avais conseillé.
Ouais.
Il a une sorte de vision extrêmement cohérente de la poésie, j'allais dire, depuis la Renaissance au moins. Hein. C'est-à-dire que toute sa lecture rétrospective de l'histoire de la poésie, française en particulier, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, elle est extrêmement cohérente. Hein. Et elle va vers la post-poésie. Enfin, c'est orienté, et c'est très, comment dire, c'est assez argumenté. Hein. C'est difficile de, je sais pas ce que disent les autres, hein, mais donc il y a une espèce de fil continu là, de ligne rouge d'une certaine manière. Et étant donné que les études de lettres en général en France, donc la poésie inclus, sont quand même assez conservatrice, quoi, si tu veux, hein. Encore aujourd'hui, il est dans la nécessité absolue, puisqu'il sait qu'il est très peu nombreux, on va dire, d'affirmer l'existence d'une lignée poétique qui passe par, évidemment, par Ponge, mais par aussi une certaine lecture de Rimbaud que les autres ne font pas, parce qu'il lit Rimbaud comme un poète objectiviste, hein, et pas du tout comme un poète surréaliste.
Oui.
Et donc il faut bien voir que le texte que tu as lu, comme tous les textes de type théorie ou essai qu'il écrit, sont des textes de combat, quoi.
D'accord.
Ça n'a pas forcément l'air comme ça, mais c'est la guerre. Je sais pas comment ça se passe dans, du côté du roman, mais du côté de la poésie, c'est absolument pas pacifié. Hein. C'est-à-dire que les gens peuvent être extrêmement agressifs, verbalement évidemment, hein, et très énervés quand tu défends une autre position. Par exemple, le texte de Robot, c'est ça, c'était un texte extrêmement violent. Hein. Et c'est un peu comme ça, j'allais dire, depuis toujours, au sens où, je sais pas, moi je pense que c'est la guerre au moins depuis les avant-gardes historiques, Dada et le surréalisme. Hein, donc les textes de Blaise, ils sont là-dedans, même si, tu vois, ça en a pas toujours l'air,
c'est
quelqu'un qui essaye d'affirmer quelque chose qui est toujours très minoritaire quand même. Si tu vois Dada en surréalisme, ils étaient totalement branchés à l'art de leur temps, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'était Dada, enfin bon, je veux dire, c'est à la fois du chant, la performance, la poésie, tout était souvent des poètes. Enfin, Zara, c'est un poète, par exemple, quoi. Marinetti, c'est un poète au départ. Enfin, dans les avant-gardes historiques, la plupart étaient des poètes au départ, et puis Picabien, pareil. Enfin, tu vois, ils étaient tous dans une ambiance où il y avait pas, où il me semble qu'il y avait moins de séparation entre ceux qui faisaient de la poésie, en tout cas ce type de poésie-là, et puis ceux qui faisaient de la performance, de la peinture, de la musique, etc. Et là, par exemple, Robot, je pense qu'il connaît rien à l'art contemporain. Non, rien. Moi, je connais un seul poète, qui est un ami de Prigent, qui s'appelle Pierre Le Pilouer, celui qui tient Citaudi.
Ok.
C'est le seul pour moi qui s'intéresse vraiment à l'art contemporain et au cinéma d'aujourd'hui. Le seul.
Okay.
Et qui connaît vraiment, qui s'y intéresse, qui en est passionné, tu vois, qui s'y intéresse vraiment et qui suit ça. J'en connais. Dans les gens, alors là, dans les gens un peu plus jeunes, c'est sans doute différent. C'est sans doute différent. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Parce que les poètes qui font de la performance et tout ça, ne n'allant pas du côté des lettres, enfin, hein, tu vois, quand on a commencé, il y a une vingtaine d'années, on a tout de suite été invité du côté des beaux-arts et pas du côté des facs de lettres. Donc, du coup, qu'on s'intéresse ou pas à l'art d'aujourd'hui, on est lié institutionnellement, j'allais dire, quoi.
Oui, à votre corps défendant, même comme.
Ou consentant, ou les deux, tu vois. Des fois, heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, je sais pas où on aurait fait la plupart de nos lectures et de nos ateliers, tu vois. Si on n'avait pas eu ça, je sais pas ce qu'on aurait fait, quoi. Il y aurait eu les livres, mais on aurait. Pour la diffusion et la connaissance de la poésie d'aujourd'hui, ça aurait été une catastrophe, quoi. C'est dommage pour les études de lettres. Du coup, il y a une coupure qui me semble pas justifiée. Qui n'est pas justifié. Parce que tu peux pas, lire vraiment la poésie du 19e, par exemple, sans cette perspective-là. Moi, je trouve pas. Je trouve que la lecture rétrospective qu'on peut faire de Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, même Victor Hugo, Lamartine, puisque même la poésie romantique, hein, comment il s'appelle, Blaise, il analyse très justement Lamartine et la conception romantique de la poésie. Je veux dire, ce type de lecture de la poésie du 19e, il est extrêmement facilité et enrichi par la poésie, cette poésie-là, et l'interprétation qui a été proposée de la poésie du 20e en relation avec la performance, et pas seulement le texte, quoi, si tu veux. Donc, de fait, pas faire autrement, hein. On entérine le fait qu'il y a les études de lettres et puis d'autre part la poésie contemporaine à côté de la danse contemporaine, etc. Mais je trouve que c'est, et sans doute c'est dommage dans les deux sens, quoi. C'est dommage que du côté des études de lettres, ils connaissent pas trop ça, ou pas suffisamment, ça c'est sûr. Et c'est dommage aussi, je trouve, que du côté des poètes performeurs, quelquefois ils aient une connaissance de l'histoire de la littérature un peu succincte, quoi.
Mais il y avait pas aussi, parce que quand il interprète le 19e, j'avais l'impression que dans un texte j'avais trouvé un truc aussi du moment de crise qui était lié à la Commune de Paris et qui relie ça à un moment où la langue doit être réinventée, et donc c'est le premier, pas les deux romantiques, mais le premier trio que t'avais cité, Lautréamont, Mallarmé et Rimbaud.
Ça, Rimbaud, il y a tout qui est mystérieux dans la mesure où tout qui est pas, c'est pas mystérieux, c'est sujet à de multiples interprétations dans la mesure où on se base pour l'aspect plus théorique entre guillemets de son travail sur des lettres, hein, tu vois, sur des lettres qui sont au départ des lettres assez courtes, hein, autant que je m'en souvienne, très peu, je sais même pas s'il y en a quatre, écrites à un ancien prof ou un copain à lui, je sais plus, hein, de l'année, je crois.
C'est un prof.
Donc au départ c'est du courrier, tu vois, qui n'ont pas eu évidemment d'effet immédiat, mais que les surréalistes ont ressorti 50 ans après, quoi, disons 40 ans maximum, et dans lequel on a prélevé quelques phrases qui ont servi de formule, comme alors je crois que changer la vie, je crois que c'est dedans. Ah, tu vois, c'est l'utilisation qu'on en a fait après, mais il n'y a que des intuitions. En fait, c'était un mec de la formule, quoi. Il a des formules géniales. Alors là-dedans, eh ben, sur l'interprétation de Rimbaud, c'est à peu près comme sur l'interprétation de Baudelaire, même s'il y a un peu plus de matière chez Baudelaire. C'est-à-dire que quand tu vois reprend Rimbaud ou Baudelaire, t'as tout. Ça va des gens les plus conventionnels et les plus traditionnels, voire réac. Enfin, par exemple, l'usage de Baudelaire par Houellebecq, c'est quand même un usage extrêmement réactionnaire. Jusqu'aux plus radicaux, tu vois, l'ultra-gauche de la poésie, d'une certaine manière, comme Glaise, quoi. C'est des gens qui ont une œuvre soit tellement riche, enfin, tu vois, sujette à des tas d'interprétations. Par exemple, chez Baudelaire, enfin, c'est assez marqué. T'as d'un côté les fleurs du mal, qui sont d'ailleurs les poètes cités par Houellebecq, hein. Si pas les poèmes en prose, Houellebecq. Il est pas con, hein. Il s'appuie sur le Baudelaire, le plus entre guillemets traditionnel, quoi. C'est-à-dire les poèmes rimés, rythmés, comptés, etc. Qu'on apprend à l'école.
Ouais.
Il va pas voir du côté des poèmes en prose parce que les poèmes en prose c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être soit compris comme glaise, c'est-à-dire comme une avancée vraiment moderne, vers la prose, lui il le tord comme ça, hein. Soit ça peut être compris comme un pied de nez aussi, hein, comme quelque chose de très ironique, genre la poésie s'est terminée, hélas, sous-entendu, maintenant on va faire de la prose.
Oui.
C'est très ambigu comme compréhension en fait, je suis pas sûre de Baudelaire, je sais pas s'il était, tu vois, on peut y prendre un peu tout, quoi.
Ouais.
Mais en tout cas, peu importe d'ailleurs qu'on puisse y prendre un peu tôt. Ce qui compte aujourd'hui,
c'est ce qu'on en fait.
C'est ce qu'on en fait, ouais. C'est l'usage qu'on en a. Et je crois qu'on est responsable d'un usage réactionnaire de Baudelaire, où il y a ça chez Baudelaire, et si on le tire de ce côté-là, on en est responsable. Et on a choisi quelque chose dans une œuvre qui peut très bien être interprétée de manière radicalement différente, quoi. C'est-à-dire révolutionnaire et on va dire progressiste comme ce que fait Glaise.
Et c'est marrant parce qu'en miroir de ce sens de la formule dont tu parles chez Rimbaud, il y a un peu ça chez Jean-Marie Glaise aussi, non?
Il y a tout ce truc,
la poésie est partout, la poésie n'est pas une solution, toute évidence est une question.
C'est quelqu'un qui pense que Rimbaud c'est le plus grand poète de tous les temps, je pense.
Ouais.
Et que l'efficacité de Rimbaud se joue dans ces formules. C'est-à-dire que ce sont des formules qui... Enfin, tu sais, certaines de ces formules ont été réellement efficaces en mai 68, en fait. Quand elles ont été reprises en mai 68.
Okay.
Donc bien après. 100 ans après. Et je suppose qu'il est aussi fasciné par la reprise possible sur un mode politique clairement révolutionnaire des formules de Rimbaud qui au départ étaient à la fois, et c'était poétique et politique, mais dès le départ en fait, hein, puisqu'il était pour la commune.